rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission périodique de rencontres avec les évêques de notre région. Pendant tout ce mois de janvier, nous étions accompagnés de Monseigneur Ginoux, qui est toujours ici, puisque je suis d'ailleurs chez lui. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibault et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, puisque c'est la dernière émission, je suis très heureux de leur dire merci.
Vous nous avez reçus pendant ce mois de janvier dans votre évêché de Montauban, que vous allez donc quitter à la fin de l'année. Pour raison d'âge, comme le pape demande la démission de ses évêques quand ils ont atteint une limite d'âge qui est celle de 75 ans. Et donc va s'enclencher un processus qui est très obscur au fond. On n'en sait rien. Le rapport qu'a donné la CIAZ il y a quelques mois se prononce à de nombreuses reprises sur le sujet de la gouvernance de l'Église et sur son opacité. Et on voit le nombre d'évêques qui nous manquent. Il y a des trous partout dans notre province, mais ailleurs. Il y a plein de sièges qui manquent. Or, tout ça peut être anticipé, tout ça est connu à l'avance. Comment se fait-il que, d'abord, le processus soit si long, tellement opaque, et qu'il y ait aussi peu d'appelés ?
Vous posez une question très juste. Je suis moi-même en difficulté pour répondre, parce que je vais dire simplement comment je sais les choses ou comment elles sont vécues par l'évêque que je suis. De temps en temps, l'annonciature envoie un questionnaire à l'évêque, mais il peut l'envoyer à vous, Thibault, à des laïcs, c'est à eux de choisir, c'est pas à nous qui disons j'espère que ça se fait. Et ce questionnaire porte sur le nom d'une personne qui est prêtre, ou parfois déjà évêque si c'est pour un autre siège. Et il y a toutes sortes de questions sur la santé, sur le comportement, sur tout ça. Et nous devons répondre en notre âme et conscience, sub secreto, c'est-à-dire sous un secret particulier qui est le secret pontifical, c'est que le pape seul qui pourrait nous en délier. Donc il nous est demandé de détruire la réponse qu'on a faite sur notre ordinateur et de renvoyer sous pli doublement cacheté notre réponse. Et puis, nous ne savons pas trop ce qui se passe.
La structure du secret est incroyable.
Ce qui se passe est clair. C'est que le nonce ou ses services choisit des dossiers quand il s'agit de pourvoir à un évêché ou à un archevêché. Choisit des dossiers qu'il envoie à Rome, à la congrégation pour le clergé, pour les évêques, pardon. La congrégation pour les évêques, c'est le ministère, le dicastère, si vous voulez, qui s'occupe de l'épiscopat du monde entier, 5000 évêques, mais qui travaille par langue. Donc nous entrons dans la section francophone, avec des prêtres ou des laïcs qui y travaillent, qui vont éplucher les dossiers envoyés par le nonce par rapport au siège demandé, c'est-à-dire au siège où on veut mettre quelqu'un. Ces dossiers sont choisis par le cardinal préfet ou par un de ses adjoints, ça je ne sais pas. Et il paraît que c'est le samedi matin, le cardinal préfet rencontre le Saint-Père et donne les dossiers dans l'ordre où ils ont été choisis. Et en général, pour les sièges modestes, le Saint-Père ne connaît pas du tout ceux qui ont été présentés. Donc il signe
le premier choix.
Et à partir de là, la nomination est faite. Voilà le processus. Et puis cette nomination, elle va être visée par le préfet, bien sûr, mais surtout par le conseiller ecclésiastique de l'ambassade de France, qui doit discuter avec le ministère de l'Intérieur pour savoir si la personne ne pose pas de problème politique. Je ne sais pas, par exemple, je prends un exemple, un militant basque, un prêtre militant basque, ça ferait peut-être un mauvais effet, donc on va l'éliminer.
En tout cas, il ne sera pas nommé à Bayonne.
Voilà. ou quelque chose qui est, ou s'il y a eu, nous sommes malheureusement dans ces affaires de pédophilie, s'il y a eu une suspicion vers cette personne que Rome ne connaisse pas, la personne va être déplacée. Ou encore, il y a un autre cas, ce sont les évêchés concordataires que sont Strasbourg et Metz. Alors là, c'est le gouvernement qui nomme et qui propose au Saint-Siège si le Saint-Siège est d'accord. Et en général, c'est ce qui se passe. Il y a une entente très précise parce que l'évêque de Metz et l'archevêque de Strasbourg ont rang de préfet et sont nommés en conseil des ministres. Donc c'est différent. Ceci dit, le casier judiciaire, les comportements de la personne pressentie pour être évêque étant vérifiés, le nonce a à ce moment-là la connaissance par Rome de la personne appelée, etc. Le nonce, en général, prend son téléphone et demande à la personne de venir à Paris à l'annonciature. Et c'est là qu'on se dit, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment les choses se passent. Et le nonce, du moins, je prends mon cas, vous dit, après beaucoup de politesse, de discussion, d'apéritif, vous dit, le Saint-Père vous a nommé évêque d'eux. Et si vous faites mine de refuser, ça ne se passe pas mal. Mais le nonce, c'est à l'Église et donc au Christ que vous refusez.
Alors en général... Vous avez un vœu d'obéissance.
Enfin, moi j'ai entendu cela de la part d'autres évêques. Oui. Et donc, on est partagé. La légende raconte que... La légende, ce qu'on dit, je n'ai pas dit que c'était faux, qu'il y a quelqu'un qui était nommé évêque, qui disait absolument non. Le nonce lui a dit, je vous laisse 20 minutes pour aller à la chapelle et le dire au Seigneur. Évidemment, au bout de 20 minutes, le candidat... arrivé en disant j'accepte. Voilà. Alors, ceci dit, le préfet de la congrégation dit que pour le monde entier, attention, il y aurait un tiers des gens nommés qui refuseraient. Mais c'est un chiffre qui n'est
non
pas
vérifiable. Voilà. Mais on sait longtemps à l'avance le nombre de sièges à pourvoir, les départs, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps de latence? Est-ce que c'est un manque de personnel? Est-ce que c'est un manque de quoi?
Alors,
on a attendu 11 mois pour le remplacement de l'ancien légal, par exemple.
Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Ouais. Mais lorsque j'ai été nommé curé, avant d'être évêque, ouais. C'était la paroisse la plus importante du diocèse. Et toutes les nominations avaient été faites. Et moi, l'évêque m'avait dit que je changeais. J'étais à l'époque chargé de la santé, des hôpitaux, de la famille, etc. J'avais un ministère diocésain. Et nous étions au 15 juin. Je n'avais toujours pas de nomination. Et tout le monde me disait, mais tu es nommé à tel endroit. Mmh. Et je dis, mais je n'en sais rien. L'évêque ne m'a rien dit. Alors, que se passait-il? L'évêque avait attendu avec délicatesse d'avoir en main la démission de celui dont je devais prendre la place. Et comme celui qui partait à cause de son âge avait été le vicaire général de l'évêque, l'évêque ne voulait pas, n'osait pas le bousculer. Si bien qu'il attendait, à peine a-t-il eu la démission, qu'il m'a téléphoné pour me dire que j'étais nommé curé d'Orange. Mais voilà. Alors je pense qu'il y a un peu cet esprit à Rome. Et puis, il y a aussi la difficulté de plus en plus grande à trouver des évêques idoines, c'est-à-dire capables...
Les bonnes personnes.
Aux yeux de Rome et du nonce, capables d'assurer, car c'est une charge très lourde.
C'est une charge très difficile.
Et le petit nombre de prêtres, ou le manque de prêtres, fait qu'on a parfois peu de monde pour s'appuyer, mais il y a les laïcs. Seulement, la situation actuelle fait que beaucoup de laïcs, qui étaient des femmes la plupart du temps, sont obligés de travailler, ne peuvent plus se permettre de ne pas avoir un salaire, ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins libres qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, où elles pouvaient, par exemple, se former à l'IRP, etc. Et aujourd'hui, on en trouve de moins en moins, parce qu'il y a nécessité d'un salaire de l'épouse. Et puis la volonté aussi de beaucoup de femmes de réaliser leur vie professionnelle. Et l'Église, en tout cas ici à Montauban, comme dans beaucoup de petits diocèses, n'a pas les moyens. Nous avons dû procéder à des licenciements en 2019, c'était dur. L'Église n'a pas les moyens d'entretenir un personnel important.
Oui, et pour en revenir au rôle de l'évêque, on sait à quel point c'est une charge qui est lourde et qui est fragile et qui est difficile à maintenir. Quand on voit la manière dont Mgr Petit a été remercié, entre guillemets, de son, de son ministère. C'est quelque chose qui fait peur, forcément. Et donc, je suppose que les prêtres oui. appelés ont peut-être de plus en plus peur ou de moins en moins envie de cette charge.
Oui, il est vrai que cette charge... mais c'est vrai aussi pour d'autres charges dans la vie civile. Cette charge représente un point, un peu le point focal sur lequel on va décharger les difficultés, les souffrances. On l'a vu dans les affaires de pédophilie. Il est vrai que certains hommes d'Église ont mal agi dans ces affaires-là. Mais on l'a vu là, mais on le voit aussi pour des demandes très très étonnantes. On m'a demandé d'intervenir auprès d'une direction d'école, pas d'école, de lycée, parce qu'un jeune passait en conseil de discipline. Je n'ai rien à voir, même si c'est une école catholique, je n'ai rien à voir avec ce fonctionnement. On m'a demandé, à l'inverse, comme on fait à d'autres personnes, d'intervenir pour faire rentrer un élève dans telle et telle classe, à tel ou tel endroit. Et on s'étonne que je réponde que ça ne dépend pas de ma mission. Des gens m'ont demandé d'intervenir, je les comprends, c'était des gens en difficulté, pour pouvoir entrer dans une EHPAD, voir leur père ou mère, parce que cette EHPAD portait un nom religieux. Vous voyez, alors ça c'est des choses qu'on peut faire, mais il y a des charges plus lourdes, des attaques, on l'a vu au Monseigneur au Petit, que tout un chacun peut recevoir à la suite d'un geste, d'une parole ou d'un acte qui n'a pas été apprécié par certains. On va directement à la tête. Et la tête doit tenir bon.
La tête doit tenir bon, et vous avez tenu bon toutes ces années. Monseigneur Ginou, merci d'avoir été fidèle. Merci d'avoir été fidèle à la radio, à votre diocèse.
Je n'écouterai plus quand je serai dans mon diocèse nouveau. Je n'écouterai plus Radio Présence, à moins que l'extension de Radio Présence franchisse l'Occitanie, puisque je serai de l'autre côté de l'Occitanie.
De l'autre côté.
Le Rhône n'est pas un barrage pour les ondes.
Mais en tout cas, merci d'avoir assuré cette charge dont on mesure à quel point elle est effectivement lourde et complexe. Et on peut, je pense, tous comme auditeurs, à la fin de cet entretien, se poser un petit peu et avoir une prière, prier pour nos prêtres, prier pour nos évêques, pour leur donner la force et le courage dont ils ont besoin, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de vous. Merci, Monseigneur.
Merci à vous, et je remercie tous les auditeurs qui prient pour moi, bien sûr, mais pour tous les évêques et les prêtres, et les diacres. On en a grand besoin, et je compte sur votre prière pour nous tous, pour la radio, pour l'avenir. Et même si cet avenir est parfois sombre à cause du manque de prêtres et de laïcs qui pourraient s'engager, faisons confiance au Seigneur.
Merci, merci. Monseigneur.
Rencontre avec nos évêques,